Un vin, c'est quelque chose qui doit vous toucher au plexus, pas dans les neurones.
Un très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation.
Les gens font du vin pour gagner des ronds, hein. Moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue.
Aujourd'hui, la biodynamie est une recette, un drapeau. En fait, c'est une démarche.
Média Vino Pro, le podcast vin qui va plus loin. Comme beaucoup de vignerons sur Mentoux-Salon, Jean-François Gilbon est également producteur céréalier. Si ces deux cultures peuvent sembler opposées, elles permettent aujourd'hui d'amener un équilibre économique à bien des domaines. L'agriculteur vigneron du domaine de Beaurepaire nous explique la complémentarité et le regard qu'il porte à ces deux activités. Jean-François Gilbon, domaine de Beaurepaire, entre cep de vigne et épis de blé.
Bonjour,
bonjour. Bonjour.
Ici, enchanté.
Pas besoin de prévoir des bottes pour aller dans vos vignes là en ce mois de juillet.
Non, pas de problème. Ça aurait été il y a une semaine, je vous aurais dit oui, mais là non. Non, c'est bon. Enfin, on travaille le sol, donc forcément dès qu'il pleut un peu, ça a tendance à coller facilement. Mais là, bon, on est au beau temps et au sec, donc c'est impeccable.
Donc vous êtes installé ici depuis longtemps ?
Alors, je suis installé depuis 1996. Les vignes, mon père a planté les vignes en 1986. Ça a commencé les premières plantations en 86. Et donc, moi, j'ai repris le domaine en 96. Donc, ça fait longtemps. Voilà. Et donc, on a développé au début, en 86-87... Mes parents étaient simplement, on va dire, apporteurs, c'est-à-dire ils vendangeaient. La vendange était vendue chez d'autres vignerons. Et petit à petit, donc on a commencé à vinifier. Les premières vinifications datent de 92, des petits volumes. Puis au fur et à mesure, on a développé la vinification et maintenant on vinifie la totalité. On met tout en bouteille, voilà, toute la production.
Vous avez toujours voulu faire ce métier ou gérer la voie tracée par votre papa a été un fil conducteur?
En fait, j'ai fait quand j'ai fait mes études, donc j'ai fait un bac agricole classique et après j'ai fait un BTS donc viticulture œnologie en alternance chez la maison Clément, donc où là j'ai pu apprendre, parce que c'est vrai que dans la famille nous étions agriculteurs depuis très longtemps, depuis de nombreuses générations, mais il n'y avait pas de viticulteurs. Donc ce qui manquait un peu, c'est le pratique en fait. Donc même si on acquiert, on a été conseillé quand même par différents organismes, mais c'est bien aussi de voir comment ça se passe et d'acquérir les bons gestes.
Parce qu'ici on est dans une région où je dirais on a beaucoup de gens qui travaillent dans la terre, mais on a aussi beaucoup de gens qui font beaucoup de céréaliers en fait.
Oui. Alors ici à Soulangis, on est à la fin de la Champagne Berrichonne. Ce qu'on appelle la Champagne Berrichonne, donc ce sont des terres céréalières. Et quand on arrive sur Paracy, Mentoux-Salon, là c'est le début donc du Pays Fort, Sancerrois. Où donc là ce sont des terrains plus variés, avec beaucoup de vignes, un peu d'élevage, un peu de céréales, un peu d'arboriculture. Donc en fait, la ferme, elle... Soulangis fait partie des communes de l'appellation. Hein. Il y a assez peu de vignes sur Soulangis. Mais on est au début, donc c'est comme ça qu'on s'est diversifié. En fait, c'était des terrains qui étaient cultivés à l'origine comme des terres à céréales, mais qui étaient des mauvaises terres à céréales parce que trop caillouteuses, exposées plein sud, donc très chaud l'été et assez froid l'hiver. Et donc on a décidé de planter, parce que moi je m'intéresse à la vigne et mon père aussi. Donc on a décidé de planter, voilà, on s'est lancé, c'est lui qui a fait le premier pas d'ailleurs, et en plantant voilà, les premiers plants de vigne sur le domaine, pour le domaine.
Donc on a vraiment ces deux approches culturelles dans la région, les céréales et la vigne.
Oui, sur Mentoux-Salon, il y a beaucoup de fermes, enfin de vignerons qui avaient aussi des céréales, voire de l'élevage. Alors que sur Sancerre, c'est vrai que c'était plus axé essentiellement vigne, avec un peu d'élevage de chèvres notamment. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une double culture. Alors peut-être maintenant, je ne sais pas si c'est les nouveaux arrivants, je ne sais pas si c'est aussi présent, mais c'est vrai que c'était quand même beaucoup de mes confrères ont en fait on des terres à céréales en même temps. Alors même si après la vigne a demandé un peu plus de travail, donc d'investissement, voilà, c'est une approche un peu différente.
Est-ce que ce sont deux cultures qui sont compatibles ?
Alors c'est assez compatible au niveau des travaux, d'emploi du temps. Alors, il y a un moment où ça coince un peu, souvent c'est pendant les vendanges, où là on peut avoir un peu la récolte du tournesol. Et un peu les semis de blé, mais c'est vrai que dans l'ensemble, ça se complète pas trop mal, quoi, en fait.
Et quand je parlais de culture, je dirais, est-ce que l'approche de faire du vin ou l'approche de produire des céréales, c'est pas un petit peu opposé comme approche de l'agriculture ?
Je pense qu'à une époque, c'était, enfin, il y a longtemps, moi j'ai pas trop connu, en fait, où la vigne, c'était une approche plutôt, on va dire, quantitatif, c'était quand même important. C'est vrai que maintenant, le qualitatif, je veux dire, prime sur le quantitatif. Alors c'est vrai que les céréales, on a une approche peut-être un peu plus comptable, effectivement. Même si on essaie quand même, moi j'ai essayé, donc je suis en démarche HVE, donc c'est pour tout l'ensemble de l'exploitation, donc vignes et céréales. Donc essayer d'avoir, de baisser les intrants, d'être, on va dire, un peu plus en phase avec l'époque actuelle, quoi, d'essayer d'aller dans ce sens-là.
Et sur la partie vigne, vous êtes en conversion bio ?
Voilà, en conversion bio, donc pour la troisième année. Donc, voilà.
Touché au but.
Voilà, on est proche. J'ai un contrôle demain matin, mais bon, ça se passera bien là-dessus. Je suis assez confiant, hein, y a pas de soucis. Ce qui est compliqué au niveau du bio, ce sont des années où on a une pluviométrie assez élevée. Et c'est de maîtriser le mildiou. C'est ça le plus compliqué, moi, je trouve. Après, le reste, on va dire, le désherbage mécanique... Eh ben ça, on l'a mis en place depuis 8-9 ans. Donc,
vous étiez équipé.
Voilà, puis on s'est un peu rééquipé. Alors il faut accepter d'avoir des vignes un peu, avec quelques herbes qui se promènent. Il faut être moins rigide là-dessus. Il ne faut pas chercher à avoir une vigne où il n'y a rien d'autre qui pousse que la vigne. Ce qui d'ailleurs n'est pas une bonne chose, je pense, en soi. Quoi.
Le fait que tout... votre exploitation ne soit pas, toute votre ferme ne soit pas en bio, c'est plus compliqué de passer en bio sur la partie céréalière ?
Alors c'est plus compliqué, notamment au niveau du désherbage. Et puis, je voulais déjà faire, peut-être que je passerai, je ne sais pas, si mes filles reprennent l'exploitation, peut-être qu'on ira sur des céréales en bio, mais pour l'instant je voulais déjà maîtriser le bio en vigne. Et puis, voir après comment ça se passe. Mais c'est vrai que c'est un peu plus, je pense, un peu plus compliqué au niveau des herbages. Voilà. Ça demande aussi, c'est une démarche, hein. Il faut accepter certaines choses. ce qui n'est pas toujours évident quand on a appris, il y a 30 ans de ça, quand j'ai fait mes BTS et bac agricole, le bio, on n'en parlait pas, quoi. Le bio, c'était réservé, on va dire, un peu des gens qui étaient un peu...
en marge.
Ouais, en marge, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que nous, on n'a jamais été. Il n'y avait pas de cours là-dessus, il n'y avait pas d'approche, rien. Alors que maintenant, bon, je pense que c'est quand même. Au niveau des études en tout ce qui est agricole, il y a quand même une approche qui est importante. Quoi.
Et si on allait voir votre parcelle ?
Eh bien, on va aller voir. Donc, nous sommes sur la commune de Mentoussalon, en limite de Soulangy. Et donc, c'est une parcelle, c'est le clos de Thureau. Donc, voilà. Donc là, c'est les clos de Thureau. Donc, c'était une vigne que j'ai achetée, que je dise pas de bêtises, en 2000. Alors, en fait, il n'y avait rien, c'était en friche quand j'ai racheté ça. On a retrouvé quelques plants de vigne qui avaient été arrachés, je pense, après la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est une vigne, et donc on l'a replantée en 2000, voilà, toute cette parcelle-là. Donc il y a presque 2 hectares. Alors là, c'est des terrains argilo-calcaires un peu plus lourds par rapport à Sancerre. On est vraiment plus sur du caillou. Là, on a un peu plus de fond, quoi, un peu plus de réserve de fond. Ça fait des vins avec un petit peu plus de gras. Et ça diffère aussi de Parassy. Même Parassy, on est sur une veine vraiment plus en coteau. Et là, on est sur des terrains un peu plus riches.
Et donc, à l'image de votre ferme, on a de la vigne sur la gauche et un peu plus loin. Alors, c'est peut-être pas à vous, vous me direz, mais on a des tournesols.
Oui. Oui, oui, bah, de toute façon, là, c'est ce que je vous disais, on est en limite de la Champagne-Berrichonne, donc qui s'arrête après Bourges, et là, on va sur le Pays Fort Sancerrois, où là, c'est vraiment plus varié, comme on peut voir, quand on a des vignes, mais on a aussi des cultures, on a un pré dans le fond, on a des prés de l'autre côté, et on a plus de haies, plus de bocages, quoi. C'est vraiment un peu plus varié.
Et là, on a donc un panorama sur le vignoble de Mentoux-Salon. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, ce panorama, un petit peu?
Alors, pas évident. Donc, en face, on a, si vous allez tout droit, donc on est sur Mentoux-Salon, qu'on aperçoit un peu, on voit un peu, ça fait un peu une petite butte. Et dans le fond, vous avez Mentoux-Salon. Après, sur la gauche, là, vous avez une route qui va rejoindre Vignoux-sous-les-Ais. Et donc là, on a quand même une surface importante de Mentoux-Salon. C'est une des zones les plus plantées. Hein, sur, on a quand même beaucoup de vignes, beaucoup de vignerons possèdent des vignes là. Donc c'est vrai qu'on est sur un peu des petits coteaux. Après, on va dans
C'est légèrement vallonné.
Voilà, c'est légèrement vallonné. Alors que sur Parassy, quand on va un peu plus vraiment sur le nord, un peu plus par là, on est vraiment plus sur des coteaux un peu plus prononcés. Alors ici, c'est vrai que par rapport à Sancerre, on a des coteaux qui sont quand même... Il y a certains coins dans Sancerre où il est impossible de passer en tracteur, en jambeur. Ici, les coteaux sont un peu plus accessibles.
Voilà. C'est un peu plus plat, voilà. Entre guillemets.
Alors, le sol est un peu plus... quand il pleut, c'est un peu plus compliqué, parce que forcément, le sol est tout de suite un peu plus frais, quoi.
Alors, on voit beaucoup de vignes, hein, c'est quand même ce qui domine. On voit qu'il y a des espaces pour des céréales, et on voit un peu de forêt, un peu de haies,
un peu de bois, voilà, c'est assez varié. On voit les chaumes dans le bas, et sur quand on monte en face, on voit que les vignes sont quand même majoritairement, quand on remonte, dans les fonds, vraiment dans le fond, il y en a quand même nettement moins. C'est quand même assez varié, ce que je vous disais, les viticulteurs sur Mentoux-Salon, là, il y en a beaucoup qui avaient plusieurs activités à l'origine, quoi.
Vous êtes natif du coin, oui. Est-ce que ces paysages, depuis que vous êtes né, vous les avez vus évoluer?
Alors, je les ai vus évoluer. Alors, l'appellation Mentoux-Salon s'est développée. Hein. On est maintenant à 600, 620, voilà, 600. Quand je me suis installé en 96, on devait être à 400.
On parle en hectares,
oui,
évidemment.
400, oui, en hectares, tout à fait, oui. 400 hectares, 450, je ne saurais pas exactement. Et c'est vrai qu'on a...
On a beaucoup planté, du coup.
Alors, beaucoup. C'est vrai que... En termes de surface, ça fait 200 hectares, ce qui est très peu en fait par rapport à d'autres appellations. Mais c'est vrai que le vignoble de Mentoux a réussi à se développer en plantant. Il y a beaucoup de jeunes viticulteurs qui sont installés, qui maintenant sont moins jeunes, mais bon, à l'époque étaient jeunes. Bon, il y en a toujours et ça se développe. On est sur, c'est vrai que sur un, il y a encore du terrain à planter, donc c'est vrai que ça permet d'avoir un peu de développement et un peu de vue dans le futur, quoi, sur les prochaines installations, alors soit des reprises, soit vraiment des créations de caves et de vignes. Donc ça a quand même évolué, c'est vrai.
Et est-ce qu'à votre image, des gens de votre génération, ou peut-être aujourd'hui, ont pris la décision de planter des vignes alors qu'ils auraient pu faire des céréales ou autre chose ici? Et ce qui explique qu'il y en ait beaucoup plus que quand vous êtes arrivé?
Oui, oui, je pense que, enfin, il y a une partie, on est plusieurs, alors, de vignerons, alors certains plus historiques que d'autres, mais d'autres qui sont un peu, qui ont développé, qui avaient un petit peu de vignes, qui ont développé, des vignerons qui ont entre 45 et 55 ans. Et donc ça, on va dire que c'était une première, un développement de l'appellation Mentoux-Salon dans les années 2000, quoi, on va dire, à peu près, enfin, même un peu avant aussi, mais c'est vrai que ça a été vraiment lancé là. Et là, il y a des nouveaux viticulteurs, des jeunes qui reprennent des exploitations, qui développent, des jeunes qui ont 25-30 ans. Donc, il y a quand même il y a une dynamique importante.
Parce que c'est plus facile de s'installer sur Mentoux que sur des appellations voisines un petit peu plus, entre guillemets, prestigieuse, oui, ou un peu plus en haut de l'affiche en tout cas.
Alors, oui, si on parle de Sancerre, bah, Sancerre en termes, déjà en termes de, il y a plus de terrain à planter, quasiment pas que je sache. Hein. Bah, le prix du foncier, le prix de la vigne est quand même nettement plus élevé aussi. Hein. Alors, c'est vrai que Sancerre est un peu la locomotive de la région centre, hein, notamment à l'export. En termes d'investissement financier, c'est quand même beaucoup plus compliqué, je pense, sur Sancerre que sur Mentoussalon ou qu'un Siroy, je connais un peu moins. Mais voilà,
Pour donner une fourchette de prix à l'hectare entre Sancerre et Mentoux,
sur, alors une vigne en production, je vais peut-être vous dire des bêtises, hein, peut-être 100 000 euros de l'hectare. Sur Mentoussalon, je pense que Sancerre, on est à x2, x3, je ne sais pas, suivant les coteaux. Je ne connais pas bien le prix du foncier, c'est pas qu'il...
En tout cas, bon, c'est pas le même business model à développer. Donc ça explique que peut-être on puisse plus facilement s'installer aujourd'hui sur des appellations comme la vôtre.
Oui, je pense que c'est une des raisons. Et puis aussi le fait qu'il y a encore des terres en classées en AOC qui ne sont pas plantées. Donc là, forcément... alors les droits de plantation sont limités, hein, sont toujours contrôlés, mais le but, c'est de développer tranquillement l'appellation Mentoussalon sans planter à outrance. Parce que en vigne, c'est vrai qu'il faut 5-6 ans pour qu'une vigne produise, voire même un peu plus. Donc quand on plante, il faut quand même essayer de se projeter un peu dans l'avenir. Donc la situation économique, on ne la connaît pas dans 5-6 ans. Bon, c'est vrai qu'on est assez confiant, parce que dans la région, dans le Cher, on a des appellations qui, avec une bonne image de marque, ça marche relativement bien. Donc, c'est vrai. Mais bon, le truc, c'est de ne pas planter à outrance pour avoir des volumes énormes après. Et puis aussi que ceux qui plantent et ceux qui s'installent maîtrisent un peu et respectent aussi un peu le cahier des charges de Mentoussalon, un peu la philosophie en fait. De pas, le but n'est pas de produire, il faut déjà avoir une qualité. Après, il y a des années on produira plus, d'autres moins. Mais déjà d'avoir quelque chose, le raisin, si on a un raisin qui est de qualité, on va dire qu'une grosse partie du travail est fait, quoi. Après, il y a le travail de cave. Quand vous partez d'un bon produit, c'est quand même beaucoup plus simple.
Vous avez fait le choix, vous, de planter de la vigne, enfin, dans le prolongement de votre papa. Mmh. Est-ce que vous auriez pu ne garder que la partie céréale ?
Non, je pense pas. Non, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait, quelque chose de nouveau en plus. Hein. C'était assez, fallait s'adapter, investir, développer. Donc ça, c'est vrai que c'était un peu un challenge, quoi, en fait. En plus, bon, dans les années 90, Mentoussalon était quand même moyennement connu. Hein. La notoriété a commencé dans les années 2000, vraiment. Bah, c'est vrai que quand moi j'ai vu au départ. Les années 95-96, quand j'allais en Bretagne, ça, Mentoussalon était assez peu connu. Donc, c'est aussi intéressant de partir d'un pied, d'avoir le raisin, le mou, mettre en bouteille et d'aller jusqu'au bout en fait, de la démarche. C'est aussi ça qui est intéressant par rapport aux céréales où là, on produit, on maîtrise beaucoup moins de choses.
Vous vous amusez plus dans votre métier de vignerons finalement ?
Oui, on s'amuse, mais on se fait aussi plus de cheveux blancs par moment, parce que des fois, on va dire qu'on subit un peu moins qu'en céréales, parce que bon, les marchés des céréales, on n'a aucune prise. Par contre, il y a plus de paramètres et de choses à maîtriser, alors que ce soit d'une part l'aspect technique, hein, l'aspect œnologique, l'aspect de la vigne, du vivant. Après, il y a tout ce qui est... commercial, l'image, l'administratif, il y a beaucoup plus de choses à apprendre et à maîtriser, donc c'est quand même plus motivant.
Alors imaginons qu'il n'y ait pas ce micro devant vous, objectivement, on vit mieux de la vigne ou des céréales ?
Alors cette année, l'an dernier, la vigne, nous on a gelé quand même assez fortement, on a eu 2000 dessus, donc c'était une année compliquée. Cette année, là, on a une pression mildiou qu'on a réussi à maîtriser. On est passé assez peu loin du gel. Donc, des années que ça se passe bien, c'est vrai qu'on a une meilleure rentabilité vigne. Mais bon, là, en céréales, actuellement, il y a des prix qu'on n'a jamais vus. Avec le contexte mondial, on a des prix qui sont multipliés par 2, voire voir 3. Alors, c'est vrai que des années comme ça, il y a moins de différence. Mais dans l'ensemble, on va dire que on génère quand même, je pense, un peu plus de résultats avec la vigne.
Mais on se fait plus de sueur froide.
Mais on se fait plus, je pense que c'est quand même... Moi, je vois les céréales, une fois qu'on a réussi à mettre en place la culture, d'avoir un programme pour maîtriser un peu tous les problèmes de fongicides. Voilà. Après, il y a la récolte, mais on livre le blé et puis c'est fini. Donc là, c'est un peu un travail de plus longue haleine en plus. Donc,
Est-ce que ces deux activités, finalement, par rapport à ce que subissent beaucoup de vignerons, le gel, la grêle et que sais-je encore, bah, ça peut permettre d'avoir des équilibres aussi sur des fermes?
Ça peut permettre, alors ça dépend aussi des surfaces, je pense, des équivalences. Ça peut permettre un peu de lisser. C'est vrai qu'il y a des années, on va faire une bonne année en céréales. Donc, même si on fait une mauvaise année en vigne, on va dire que ça a tendance à lisser. Après, équilibrer, je ne sais pas si ça arrive à équilibrer. C'est vrai que... Et bon, on voit que les épisodes climatiques sont de plus en plus marqués. Hein. Bon, déjà, les vendanges commencent plus tôt. Ça, c'est net. Moi, quand j'ai commencé mes stages, ça devait être en 91-92. C'est vrai que les vendanges commençaient rarement avant le 25 septembre, quoi. Maintenant, on est plutôt autour du 10-15 septembre, voire plus tôt cette année, on sera sûrement autour du 5 septembre pour les vendanges. Donc il y a l'aspect climatique qui est quand même de plus en plus présent, que ce soit des hivers peu rigoureux, donc ce qui fait qu'il y a un risque de gel qui est plus fort, hein, parce que forcément la vigne démarre plus tôt, avec des gelées un peu de printemps, avec des gros coups de chaud comme on a eu 38 ici, donc ça fait beaucoup de choses c'est vrai, qui viennent se superposer, on va dire, en plus des autres choses à maîtriser pour la vigne.
Si vous aviez un jeune vigneron, une jeune vigneronne qui voulait s'installer, vous l'inciteriez à garder ces deux cultures ou de mettre tous ses œufs dans le même panier? Alors, de l'une ou de l'autre?
Oui. En céréales, le problème qui se pose, c'est d'avoir un matériel. Il faut une surface minimum. Moi, je suis en groupement d'employeurs et en groupement de matériel, parce que pour avoir des outils performants, il faut quand même un peu de surface. Donc, ça dépend de la surface. C'est vrai que peut-être déjà se spécialiser dans une culture, notamment la vigne, ça peut être quand même très, très intéressant, peut-être plus abordable, on va dire. Alors, pas forcément en termes financiers, mais en termes de temps. Parce que bon, si un jeune vigneron peut s'installer sur 2, 3, 4 hectares, commencer comme ça, et il peut faire quasiment le travail tout seul au départ. Donc, et après, développer la vigne. Donc c'est peut-être un peu plus...
Alors qu'en céréales, il faudra évidemment beaucoup plus de surface.
Plus de surface. Alors, il y a des investissements matériels qui sont assez lourds. Bon, en vigne, c'est plutôt le foncier qui est lourd. Après, on a aussi le matériel. Et puis, ce qui coûte en vigne, c'est le temps passé, en fait. Comme par exemple, la taille, il faut du monde pour tailler l'hiver, quoi. Donc ça, c'est du temps, donc forcément. S'il faut embaucher du monde, ça a un coût. Donc... moi je pense que c'est plus un choix, une envie personnelle. Je veux dire, y a des gens qui voudront, il y a des agriculteurs, des paysans qui ne voudront pas toucher un pied de vigne parce que ça les. Ils n'aiment pas ça. Puis d'autres, l'inverse, qui préféreront être dans les vignes. Donc c'est plus, un choix, un cheminement personnel.
Est-ce que cette partie céréalière, elle induit des choses culturelles chez les vignerons aussi? Je pense, on en parlait un petit peu ce matin. La mécanisation, les vendanges mécaniques, est-ce que c'est pas un peu une conséquence entre guillemets de cette approche céréalière où y a du matériel, il y a des tracteurs, c'est inévitable?
Moi je pense pas, enfin personnellement je pense pas, je pense plutôt que ce qui a fait que la vigne s'est mécanisée, il y a deux choses, c'est le problème de, notamment pour les vendanges, il faut trouver du monde, c'est quand même compliqué de trouver des équipes.
Ça c'est partout.
C'est partout. Donc avec la machine, alors maintenant on a des machines à vendanger, nous ce qu'on a en Cuma, on a plusieurs, c'est une machine avec un égrappoir, table de tri intégrée, et on a un travail franchement qui est, si la vigne est à maturité, si elle est propre, vous faites un travail, un super travail. Il y a cette chose là qui est au niveau de la mécanisation, il y a aussi le passage au bio. Qui dit passage au bio dit travail mécanique sous le rang. Donc là, il faut être bien équipé, sans que ce soit des équipements très, très complexes, mais il faut quand même un peu de matériel pour travailler. Et puis là, on voit ce qui se profile un peu, c'est les robots, les outils autonomes, quoi. Les robots, notamment au niveau des herbages mécaniques, bon, ça sera bientôt au point, soit ça l'est même quasiment, et puis même peut-être des robots de taille dans un futur pas si éloigné, je pense.
On n'en est pas là encore ?
Non, pas encore, mais bon, il y a des essais qui se font sur les robots de taille. Après, tout ce qui est enjambeur autonome qui permet de faire du binage et du désherbage, c'est à peu près au point maintenant.
Pour en revenir au bio que vous évoquiez à l'instant, donc vous avez fait le choix de franchir le cap. Dans la région, c'est encore pas la norme. Qu'est-ce qui vous a incité à prendre ce risque aussi,
oui.
Parce qu'il y a une prise de risque derrière.
Oui, tout à fait. Alors moi, j'étais en Terra Vitis depuis 2015. Donc il y a une démarche agriculture raisonnée. Bon, c'est vrai que j'ai arrêté Terra Vitis parce que je ne voyais pas l'intérêt de garder les deux, mais ça m'a permis déjà de mettre un peu le pied à l'étrier, de voir un peu comment ça se passait. Et puis, moi, je trouve dans le bio, alors c'est vrai qu'il y a une prise de risque, il faut accepter une petite baisse de rendement. Hein, ça,
c'est quand même... Chez vous, c'est combien à peu près ?
Alors, l'an dernier, bon, on a eu le gel et on a du mildiou, donc c'était assez élevé. Mais bon, on va dire qu'une année sur 10, on va dire qu'on a une baisse de rendement qui peut être significative. Alors ça, c'est à la Sekevac, hein. C'est pas moi qui le dis. J'ai pas assez de recul encore. En fait, le fait de travailler le sol, déjà, moi, je trouve ça assez agréable, en fait.
Épanouissant ?
Oui, oui, non, mais en fait...
Vous avez plus de satisfaction à travailler vos sols qu'à... qu'à mettre des produits phytosanitaires.
Alors, c'est vrai qu'un désherbant chimique, on va avoir un sol qui va être impeccable. Mais quand on va retravailler le sol, les premières années qu'on a arrêté, il y a donc 7-8 ans, on a revu des... Alors la première année, par exemple, on est plein de liserons partout qui est ressorti.
Dès la première année.
Oui, c'était impressionnant. Donc après, ça, en fait, la flore a tendance à s'équilibrer. On a une flore qui est plus variée. On a une vie aussi avec le travail du sol profond qui est quand même nettement... Au niveau de la vigne, moi j'avais fait l'essai quand je suis passé en travail du sol vraiment profond. J'avais laissé 10 rangs avec un travail du sol vraiment très superficiel et le reste vraiment plus profond. Et
pour voir la différence,
ouais. Ouais. Et on voyait notamment des années sèches. Alors la première année, la vigne, ça a tendance un peu à la secouer parce qu'on coupe un peu les radicelles qui sont en surface. Et la vigne va chercher plus loin après.
Plus en profondeur.
Plus en profondeur. Donc là, c'est là qu'on voit, en fait, je pense que l'effet bénéfique du travail du sol est quand même important. Après, le fait de mettre... Après, pour maîtriser, en fait, le mildiou et l'oïdium, on a le droit à la bouillie bordelaise, enfin, sulfate de cuivre ou autres dérivés, et au soufre. Bon, ça, c'est des produits contact, hein, ce qu'on appelle.
Il faut être réactif.
Nous, je vois, on a loupé un traitement cette année, c'était limite. On voit que ça, heureusement que ça s'est mis au sec, parce que c'est vrai que des fois, il faut vraiment être...
Plus de dimanche, ouais. Plus de week-end, plus
ouais,
de vacances.
Bah, après, ça dépend des années. Il y a des années, ça se passe très bien, puis d'autres, il faut aller traiter le week-end. Et puis, on a des zones qui sont un peu plus sensibles, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Alors c'est vrai qu'après, des fois, ça joue à 15-20 mm. Vous avez un orage à un endroit, puis pas à l'autre. Et puis là, vous avez plus de contamination. Donc, il faut être présent jusqu'à fin juillet, en fait. Après, en général, on est au repos. Voilà, mais c'est vrai que c'est quand même une satisfaction, même si ça peut être compliqué... De ne pas se dire est-ce que j'ai pas fait une bêtise, de ça, mais bon, moi je pense que quand on est parti dans cette démarche, il faut aller jusqu'au bout. Quoi. Sinon.
Je peux vous demander votre âge ?
51 ans.
Objectivement, vous auriez pu amener votre domaine sans cette conversion, sans vous compliquer l'existence.
Ah oui, tout à fait.
Qu'est-ce qui vous a incité à l'aube des 50 ans à franchir ce cap ?
Je sais pas, j'ai deux filles, alors est-ce qu'elles reprendront l'exploitation ? Ça, c'est pas sûr, je sais pas.
Vous le souhaitez peut-être ?
Bon, je le souhaite, mais après, je forcerai personne. Je dirais, il faut vraiment que ça... Parce que c'est pas un métier qui est toujours facile. Il y a beaucoup de satisfaction, mais il y a quand même aussi pas mal de choses à gérer. Je me suis dit, si mes filles reprennent aussi, même quelqu'un que je connais veut reprendre le domaine, au moins, le travail sera fait, puis j'aurai essayé d'apporter un peu d'améliorer un peu au niveau de l'environnement, quoi, en fait. Puis c'est une satisfaction de réussir quelque chose. Alors, bon, des fois un peu de stress, mais bon.
À travers cette conversion, il y a aussi... ça vous permet sans doute de mieux valoriser votre domaine et de lui donner une autre visibilité même pour des acheteurs potentiels dans l'absolu.
Oui, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais moi c'est mon point de vue. Je pense que le bio en vigne va devenir la norme. Alors je ne sais pas dans quel laps de temps, hein. Mais on voit sur les marchés, notamment à Wine Paris, ce que je fais depuis quelques années, notamment les acheteurs étrangers. J'ai trouvé un marché au Danemark parce que j'étais en conversion en fait. Il cherchait du bio, il n'en a pas trouvé. Mais je lui ai dit, moi je suis en conversion, donc voilà, dans quelques années. Donc en fait, il y a quand même une demande voilà, sur ces vins et c'est quand même plus valorisant. Alors il y a des appellations qui s'y prêtent peut-être plus ou moins. C'est vrai que les appellations où il y a plus de difficultés économiques, c'est quand même beaucoup plus compliqué, je pense. Il faut mieux faire le pas quand l'appellation va bien, quand le domaine va bien. On peut quand même plus absorber s'il y a des problèmes de trésorerie, tandis que c'est vrai que si on se réveille un peu tard, et puis je pense que les désherbages de façon chimique, je crois que ça va être interdit dans les vignes. Je pense que par exemple, notamment le glyphosate, ça a été repoussé, mais ça sera arrêté, puis les autres produits qui ne seront pas indispensables seront arrêtés, je pense.
Vous mesurez que dans la région, c'est pas la norme encore. Vous parliez de normes à terme, mais aujourd'hui, on en est encore loin, objectivement.
Alors, sur Maine Tout Salon, je crois qu'il y a 40% des vignerons qui sont en démarche bio, en conversion. Hein. Donc, on est l'appellation dans le Cher. Peut-être, alors je ne sais pas qu'ainsi où est-ce qu'ils en sont. Je crois que... Mais je sais que Maine Tout Salon, on est assez... Il y a plusieurs domaines qui sont lancés en même temps que moi ou avant. Bon, il y a quelques domaines qui sont lancés bien avant, comme le domaine Taillé ou le domaine Gilbert. Mais là, on est plusieurs, on est une petite dizaine à s'être lancé dans le bio. Donc, en fait, c'est ça que si je trouve.
C'est un stimulant, peu
important, voilà. Puis aussi, c'est aussi stimulant, voilà. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais les consommateurs veulent quand même avoir un produit avec des qui au niveau de l'environnement et puis de la santé quand même plus. Plus respectueux.
On vous regarde plus bizarrement du coup quand vous entamez ces démarches aujourd'hui.
Non, maintenant c'est non, on a laissé faire les autres. Non, mais ça aurait été quand les premiers domaines se sont lancés, c'était il y a peut-être 10 ans, je sais pas, sur Mentou. Enfin, pour ma part, moi je les regardais pas bizarrement parce que je connaissais les personnes. Après,
vous étiez curieux un peu de leur travail, quand même.
Oui. Non, mais c'est vrai qu'avant de me lancer, j'ai quand même discuté pas mal. Avec ceux qui s'étaient lancés, donc avant, avec ceux qui avaient fait la démarche, et c'est vrai que, ils étaient assez motivants. Il y a des années très faciles, avec des étés secs, des printemps secs, et puis on a des années quand même des fois compliquées. Donc, mais il ne faut pas regretter, je pense, il faut y aller.
En tout cas, vous, depuis 2 ans que vous êtes engagé dans cette démarche, voilà. Vous avez l'impression d'être dans la ligne. Enfin, vous voulez pas déroger de cette ligne, en tout cas.
Non. Maintenant, ça aurait plus de sens pour moi, personnellement, parce que même au niveau des... Il y a 3 personnes qui travaillent avec moi au domaine. Eux aussi, des fois, ça peut être aussi... Parce que quand vous êtes dans les vignes, puis qu'il y a un peu de mildiou, qu'il y a des mauvaises herbes, ça, des fois, les gars, ils peinent à supporter ça. Donc là, on a revu un peu l'équipement, on essaie un peu d'être un peu plus pointu. Donc, si c'est pour faire marche arrière, moi, je trouverais ça dommage, quoi.
Qu'est-ce que vous expliquez qu'il n'y ait pas plus d'engouement, entre guillemets, même si sur Mentou, il semble qu'il y a une vraie prise de conscience. Comment vous expliquez qu'il y ait, par rapport, je dirais, aux normes nationales, qu'il y a un petit décalage dans votre région?
Bonne question. Alors, je pense que les vignobles qui sont plus au nord, c'est quand même plus compliqué, notamment à la Champagne. Et c'est vrai que dans le sud, ils ont quand même... je pense qu'il y a un peu plus de conversion et de gens au bio dans le sud de la France. Quand un vignoble va mal, c'est peut-être compliqué de se lancer, quoi. C'est plus psychologiquement, on a plus de prise de risque, donc c'est quand même...
Chez vous, on ne peut pas dire que ça va mal.
Non, justement. Après, Sancerre, je ne saurais pas expliquer, je ne peux pas parler. Mais bon, après, c'est peut-être aussi une histoire... Enfin, c'est même pas une histoire de génération, parce qu'il y a des vignerons qui ont 45-50 ans qui se sont lancés, puis il y en a d'autres de 30 ans qui veulent rester... sur des méthodes plus classiques. Est-ce que c'est au niveau de l'enseignement agricole? Est-ce que c'est assez mis en avant? Est-ce que cette partie-là est assez expliquée? Je ne sais pas. Ouais, franchement, pas évident à dire.
Votre ferme, aujourd'hui, elle, sa taille, avec les de spécificités, ça représente quelle surface ?
Alors en vigne on a 13 hectares, donc sur Mont-Salon, ce qui est une exploitation moyenne, hein, voilà. Et en céréales on a 130 hectares, donc ce qui est quand même un peu en dessous.
Donc, c'est petit 130 hectares de céréales ?
Alors c'est pas petit, mais c'est, on va dire, on est dans une moyenne plutôt basse quoi. Une moyenne plutôt basse, 130 hectares actuellement en céréales, alors je ne parle pas de cette année, mais des années classiques, une personne en céréales, c'est limite. C'est la mutualisation qui fait qu'en céréales, ça permet de s'affranchir, ça donne plus de souplesse aussi. Si on a un problème de santé, ben, aussi ça permet aussi un peu d'entraide, voilà. Mais on va dire que je suis dans la moyenne, voilà.
Vous seriez prêt à lâcher vos céréales dans l'absolu avec quelques hectares en plus ?
Non. Non, parce que c'est aussi, les céréales, c'est aussi un héritage familial, quoi, en fait. Alors, de mon côté, on est agriculteur depuis, on a remonté jusqu'en, je vous dirai pas, mais 1600 quelque chose de côté de
moi. Il y a un ancrage dans le coin.
Ouais, donc, alors, mes parents n'étaient pas originaires d'ici, mais je pense qu'il y a un peu d'hérédité, je pense. Enfin, bon, c'est aussi d'être élevé un peu dans la culture, comme ça, mais d'avoir un passif comme ça de... des deux côtés, de mon père ou de ma mère, d'agriculteur, de paysan, bah ça joue aussi. Quoi. Donc la terre, c'est quoi ? ça a son importance.
Vous tenez aux deux.
Voilà, je tiens aux deux, oui, tout à fait.
Dans l'organisation sur une saison, on l'évoquait à demi-mot tout à l'heure, il n'y a pas des moments où ça se chevauche un peu les pics sur les deux cultures ?
Alors oui, les pics, c'est pendant les vendanges, parce que souvent les vendanges tombent pendant la récolte des tournesols. Enfin, si c'est l'inverse, ça dépend. Bon, après, c'est vrai que maintenant que je suis avec des voisins, je travaille avec des voisins, ça permet d'avoir plus de souplesse. Donc, il y a un peu cette période-là, puis des fois un peu les semis, mais maintenant, vu que les vendanges sont plus précoces, les semis du céréal commencent rarement, en général, avant le 15 octobre, donc souvent les vendanges maintenant sont finies. Donc, il y a cette période-là, après, il y a un petit peu, mais bon, la moisson maintenant, ça va relativement vite, hein. Donc, il n'y a pas trop de périodes qui se chevauchent.
Vous auriez des terres céréalières que vous pourriez passer en vigne aujourd'hui, dans l'absolu ?
Non. Non, j'ai tout planté. Il me reste un tout petit bout, mais non, pour l'instant, non. Tout est... Après, on peut toujours faire du vin de pays, mais bon, ce n'est pas le but. Enfin, ça peut être intéressant d'explorer un peu avec des cépages un peu résistants au mildiou, par exemple. Il y a des nouveaux cépages, ou faire des vins vraiment un peu... atypique. Mais le but, c'est de ne pas avoir les mêmes cépages que le Mentoux-Salon, donc le Sauvignon et le Pinot Noir, et de garder la typicité vraiment du terroir. Quoi.
Vous parlez de vin, je pense qu'on ne dégustera pas de blé de toute façon chez vous. On va peut-être retourner à votre chai.
Eh bien, avec plaisir. Hein. Donc on va aller à la cave et puis vous allez déguster la production.
Allez, direction le chai. Et vos parcelles sont situées dans... ne sont pas d'un seul tenant, j'imagine ?
Non, on a quatre endroits. Alors principalement, les parcelles sont sur la commune de Paracy. Là, on a un assez gros bloc sur la commune de Paracy où on fait le clos des Petites Croix, qui est la première parcelle plantée en 86-87. Et après, on a des parcelles donc là au Clos-Turo sur Maine du Salon. On a sur Vignoux sous les Ais, pas très loin, et une autre sur Vignoux. Donc on a essayé de disperser un peu aussi les parcelles. Alors d'une part pour avoir au niveau géologique d'avoir un peu de diversité, parce qu'on essaie de faire un peu de cuvées parcellaires, et aussi pour limiter le risque climatique, notamment au niveau des grêles, parce que souvent la grêle prend un couloir, donc ça s'est vérifié c'était 2009, où on a grêlé très fortement ici, où on était là. Et par contre, à Paracy, il y avait assez peu de dégâts. Et par exemple, l'an dernier, où on a gelé fortement à Paracy et assez peu ici. Donc ça permet aussi de limiter un peu le risque. Voilà.
On entend le bruit des bouteilles qui claquent. On ne doit pas être loin d'un chai.
Là, c'est des étiquetages.
Bonjour. Donc on se retrouve au frais dans votre chai.
Voilà, au frais. C'est un chai, ici c'est un ancien bâtiment, c'était une ancienne écurie à l'origine, qui a été aménagée, donc au-dessus on a fait des bureaux. Puis là il y a le caveau de dégustation, alors c'est une petite... Et donc là c'est tout ce qui est stockage et mise en bouteille, et puis de l'autre côté on a la cuverie en elle-même, qu'on peut aller voir si vous voulez. On reçoit la clientèle particulière ici, pour des dégustations et de la vente. Donc on n'est pas dans une région très touristique, notamment Soulangis, mais on n'est pas loin de Bourges, donc on a quand même une bonne clientèle de passage. Et puis les gens goûtent dans les restaurants, relèvent le nom et puis soit commandent ou se déplacent pour déguster.
Et alors votre chai, il est juste derrière la porte,
alors,
c'est ça?
Alors, là c'est une remise.
Donc toute cette partie, c'est vous qui l'avez mise en place, forcément?
Voilà, fur et à mesure, donc ces bâtiments, donc... ça, c'est une extension qui avait été faite. Donc, on est sur l'extension moderne. Hein. Enfin, moderne, plus maintenant. Mais... Donc, isolée. Et donc là, on a tout ce qui est cuve de vinification pour les blancs. Donc, avec température thermorégulée.
Voilà. De l'inox?
Voilà, de l'inox pour le blanc.
Un petit peu de fibre.
Un peu de fibre pour le stockage. Et aussi, quand il faut faire des soutirages. Et là, on est sur les rouges. Là aussi alors je fais aussi un tout petit peu de fût de chêne, un tonnelier qui est sur Mentoux Salon, là, la maison Gauthier. Et sans ça, là, c'est pour les rouges, la cuvée classique. Et derrière, on voit le pressoir.
Donc sur Mentoux, vous avez encore un tonnelier?
Eh oui, oui. Ouais.
C'est une chance, ça.
Ah oui, non, c'est vraiment sympa. Alors c'est du bois de la forêt, des forêts à côté. Hein. Donc en Richemont, Mentoux Salon, je ne sais pas, mais Mérias Bois. Donc c'est vraiment du local. C'est vrai que je suis pas, j'ai pas beaucoup de fûts, quoi. J'en fais 4-5 suivant les années, donc c'est un peu une cuvée un peu confidentielle.
Il n'y a pas de chai à barrique chez vous. On est dans le chai.
Ouais.
Donc nous sommes prêts à en découdre avec vos vins.
Voilà. Alors non.
Et alors avant de les goûter, je vois vos prix. Oui. Et il n'y a pas un vin au-delà de 10 euros.
Oui. Alors, c'est vrai qu'on est sur... on n'est pas trop cher.
On peut même dire que vous êtes très peu cher.
Très peu cher. Mon comptable me dirait que pas assez, mais bon. c'est vrai qu'on est parti sur des bases, donc on évolue un peu tous les ans. Là, je pense que quand on passera au bio, on sera obligé d'augmenter un peu plus. Les cuvées classiques sont en dessous de 8 euros. Voilà. Et on a des cuvées fût de chêne et clos des petites croix qui sont à 9 euros. Donc, on a en cuvée classique, on a blanc, rouge et rosé. Et puis, on a deux cuvées. Donc, le clos des petites croix qui est la parcelle la plus ancienne du domaine, qui est de 86-87, en Sauvignon, avec un passage sur l'Iffine et brassage. Donc, on a un vin qui est beaucoup plus long, avec plus de minéralité. Alors, on n'en a pas en 2021, parce que la récolte était trop petite, donc je n'en ai pas fait. Et puis, sans ça, on a le rouge cuvée du Grand Argentier, qui est passé en fût de chêne pendant un an, voilà, qui est un pinot noir.
Est-ce que ce sont des prix, somme toute, normaux pour l'appellation?
Alors, sur Mentoux Salon, je pense qu'on va, faudrait voir, mais entre 7 et 10 euros, je ne sais pas la moyenne, voire un peu plus peut-être. Un peu plus chez certains vignerons. C'est vrai que je suis plutôt à la fourchette basse. J'ai pas voulu augmenter trop haut d'un coup, donc voilà, je suis resté sur des prix somme toute raisonnables, je pense.
Donc avant que vous n'ouvriez la première bouteille, on voit juste à côté des pierres et des coquillages fossilisés.
Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on a trouvé dans les vignes. Hein. Donc ces modèles-là, alors ça, c'est un espèce de coquillage en pointe. Là, on a des ammonites et on en a des plus...
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les ammonites...
C'est un gros escargot de mer. On en a des plus gros, là, comme celui-ci. Donc ici, il y a plusieurs millions d'années, la mer recouvrait quasiment tout. Donc, on est sur des argéocalcaires de type chimérégien, donc avec plein de petits coquillages, coquilles d'huîtres notamment, ce qui, au niveau de la minéralité, permet d'avoir un vin particulier, quoi. Donc là, je vais vous faire goûter la cuvée classique en 2021.
goûté un peu avant.
Depuis votre installation, on a vu votre chai à l'instant. Est-ce que vous avez fait des modifications notables dans votre approche de la vinification par rapport à vos expériences, par rapport à vos échanges? Qu'est-ce qui a changé entre ce qu'on vous a appris il y a 30 ans en BTS Vignonneau et les vins que vous sortez aujourd'hui?
Au tout début, là, quand on s'est installé, on avait un matériel œnologique qui n'était pas très performant. Ce qu'on a changé, c'est qu'on a supprimé tout ce qui est vis, donc vis pour la vendange, donc soit pour remplir le pressoir, soit pour décharger les bennes. Donc on a mis des tapis élévateurs en inox avec tapis caoutchouc, donc pour ne pas avoir de trituration en fait de la vendange. Parce que plus on a de trituration, plus on va extraire des goûts qui sont herbacés, des arômes végétaux qui ne sont pas forcément ce qu'on recherche. On aura plus de bourbes, un peu des déchets en fait. Les bourbes, c'est tout ce qui est terre, pellicule et autres qui va tomber dans le fond de la cuve. Donc ça, on a fait ça, on a supprimé tout ce qui était vis. Sans ça, la fermentation, c'est relativement, ça se passe relativement comme il y a 20 ans, quoi. En fait, on contrôle les températures sur les blancs pour éviter des températures trop excessives. Donc, pour simplifier, on reste autour de 18-20 degrés pendant les fermentations. Je levure une partie de la cave, je fais une ou deux cuves en levure indigène naturelle.
Qu'est-ce qui détermine ce choix justement de levurer ou pas?
Alors souvent je levure au début, c'est vrai qu'après souvent on a un peu des levures un peu partout. Alors ça dépend aussi du type de vendange qu'on rentre. Si on a une vendange qui est vraiment nickel, vraiment propre, là on peut prendre le risque parce que les levures indigènes, on contrôle beaucoup moins de paramètres. Notamment les fins de fermentation qui des fois sont un peu plus difficiles. Après on fait des fermentations assez longues. Donc on passe sur des cuvaisons 10-15 jours à peu près, et sans pigeage ni trop de trituration, pareil. Donc c'est d'avoir une extraction assez douce pour avoir des vins assez ronds, pas trop, on ne cherche pas forcément des tanins excessifs. On est plutôt sur des rouges un peu légers, un peu friands, quoi. Essayer d'avoir... Alors, c'est vrai qu'on sur les rouges, suivant les années, on a des années où c'est plus ou moins concentré, quoi.
Donc ça, c'est votre cuvée de base, on va dire.
C'est une cuvée classique, donc c'est 80% du blanc. Après, je vais vous faire goûter une autre cuvée, la cuvée Clos des Petites Croix, qui est en 2020. Et je pense que je vais refaire une cuvée parcellaire sur 2022, si ça se passe bien. Donc, ce sera un autre type de blanc, donc ce serait les vallées, donc c'est une parcelle d'un hectare. Qui est bien orienté sur des terres un peu fortes, mais pour avoir des vins avec un peu plus de gras, quoi. Donc essayer un peu de diversifier un peu les cuvées, quoi.
Quelles sont vos références? Qu'est-ce que vous buvez à la maison?
J'aime bien les vins de Loire. Je suis moins Bordeaux. Hein. J'aime bien tout ce qui est vin de la vallée du Rhône aussi. Mais en vin de Loire, j'aime bien le Saint-Nicolas de Bourgueil, par exemple.
Donc là, c'est le Clos des Petites Croix.
Voilà, Clos des Petites Croix, donc c'est un millésime 2020. Le Clos des Petites Croix, à part Assis, ça fait 8 hectares.
Ah oui.
Alors moi, j'ai la totalité quasiment.
D'accord.
Mais là-dessus, j'en prends qu'un hectare. Donc, enfin, sur les 8 hectares, il y en a 3 hectares qui ont été plantés en 86-87. Donc déjà, c'est dans cette parcelle-là. Et je revendique donc une partie, mais c'est une déclaration parcellaire. C'est vrai que normalement, tout ce qui est clos doit être une référence cadastrale, donc bien notifiée. Et puis on doit faire une revendication à part, normalement, c'est ça.
Mmh. Donc là, c'est un futur premier cru de Mentou, en fait.
Voilà, c'est ça. On a émis l'idée, mais bon.
Blague à part, c'est un sujet sur votre appellation ou certains en discutent?
On en a discuté, ça a été mis en stand-by. Bon, pour l'instant. Voilà, après, il y a eu plusieurs points de vue, on va dire, qui étaient mis sur la table. Bon, pour l'instant, on en reste...
L'idée lancée, quoi.
Ouais, voilà. Alors, j'espère que ça évoluera dans le temps. Hein.
C'est pas pour demain, en tout cas.
Ouais, voilà. Non, c'est pas pour demain. Peut-être après-demain.
Ça fait plus mûr.
Ouais, plus mûr. Plus mûr, c'est la parcelle qu'on vendange en dernier. On n'est pas sûr de la surmaturité, hein. Moi, vraiment,
non, mais il y a un côté vraiment solaire dans le
miel, un peu. Moi, j'aime, je trouve un peu. Et le fait d'avoir une majorité de pieds qui ont 20-25 ans joue sur l'expression des arômes. Ça, c'est.
En tout cas, on est On n'est pas du tout sur une expression variétale du Sauvignon avec
non.
ce vin.
Non, là on est plus vraiment sur le terroir. Hein. Vraiment, chose de, qui reflète un peu. On a un peu l'acidité, je trouve, des pierres. Enfin, je trouve, c'est un peu... peut-être un peu tiré par les cheveux, mais ce que je retrouve un peu, je trouve un peu côté le minéral, quoi, vraiment pierreux un peu.
Quels sont les rendements dans la région, généralement? Vous allez me dire, ça dépend d'un domaine, mais...
Oui, non, nous, sur les rouges, on est à 40-45 hectos.
Et sur les blancs?
Sur les blancs, on est 55-55, mais quand on fait la moyenne, on dépasse rarement les 60 en blanc. Et voilà, c'est la cuvée des Grands Argentiers, donc en 2018... donc c'est un rouge qui est passé, qui fait sa fermentation malolactique en fût de chêne. Donc il y a à peu près un tiers de fût de chêne neuf. Tous les trois ans, je renouvelle. Bon, j'ai assez peu de fût, donc c'est assez simple. Mais voilà, donc, et on laisse quasiment un an en fût. Donc là, on a un vin qui est un peu plus destiné à la garde. Alors, les fûts sont des chauffes moyennes. Donc il y a plusieurs types de chauffes sur les fûts. On peut demander au tonnelier... En fait, il brûle un peu l'intérieur. Là, on est sur une chauffe moyenne. Donc ça va être légèrement toasté. C'est très...
Les raisins un peu plus concentrés aussi.
Voilà, on a plus de concentration. Le fait d'être en fût aussi, avec le... il y a une micro-oxygénation, donc qui fait que ça évolue vraiment. Donc là, millésime 2018, on peut encore le garder, je pense, 2-3 ans sans problème. Les tanins sont encore présents, ils commencent un peu à être fondus, c'est pas trop...
Ils sont encore là, hein.
Ouais, ils sont encore là, mais c'est pas trop... Enfin, c'est vrai que souvent, là, on a un décalage d'une année et demie entre la mise en bouteille et la mise en vente. On a toujours ouais, une année, voire deux années de décalage, quoi. Et on laisse le vin en box, en bouteille, tranquille.
Super, ben on va... Vous remercier pour le temps que vous nous avez accordé.
C'était intéressant.
Vous souhaitez une bonne vendange 2022 parce que vous avez une année rattrapée, là, quelque part.
Oui, non, mais là, je suis assez confiant. On touche du bois. Non, mais ça, on est sur une bonne piste. Là, il reste un mois, un peu plus d'un mois. On prévoit les vendanges début septembre. Ça devrait bien se passer. En plus, qu'on a des vendanges précoces, alors, on a un petit inconvénient, c'est que si on a des journées trop chaudes, donc là, on commence le matin de très bonne heure, à 5 heures, et puis on arrête à midi pour éviter les fortes températures. Mais on a toujours plus de marge. On peut laisser une parcelle un peu plus longtemps, arriver à maturité, parce que bon, en septembre, on a encore des très belles journées, quoi. Donc on est assez optimiste.
Et bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite.
Merci.
Merci à vous.
Merci.
À une prochaine.
Et bien, à une prochaine, avec plaisir.
Jean-François Gilbon, domaine de Beaurepaire, entre cèpe de vigne et épis de blé. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Mae Kubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.